VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Raïssa Girondin avec vous en direct de Washington pour Le Monde Aujourd'hui, édition de 18h30 en temps universel. La même heure à Dakar, Conakry, Abidjan. Bonsoir, voici les titres. Le Premier ministre malien Soumeilou Boubé Maïga poursuit sa visite au Mali, à Kidal.
Le contexte politique a changé, le contexte sécuritaire de même. Et la personnalité de Boubé est différente de celle de Moussa Mara, son prédécesseur.
Au Cameroun, une attaque attribuée aux séparatistes anglophones fait un mort, un blessé, tous deux des employés du gouvernement. Nouvelle attaque terroriste en France, au moins 3 personnes sont mortes, un individu se réclame du groupe État islamique. Ici, aux États-Unis, le président Donald Trump signe le budget adopté par le Congrès malgré des menaces de veto. Dans la Minute Éco, l'inspection par des drones est encore nouvelle en Afrique de l'Ouest. Elle arrive en Côte d'Ivoire. Le président de la Confédération africaine de football en exclusivité dans la page sport. Mais tout d'abord, le journal. Le Premier ministre malien Soumeilou Boubé Maïga est arrivé ce matin à Kidal dans le cadre de sa tournée dans le nord et le centre du pays. Il s'est ensuite envolé pour Gao. Le point avec Kassine Traoré.
Il n'y a pas eu de vent de sable aujourd'hui dans les ciels kidalois. C'est ce qui a permis au Premier ministre malien de se rendre à Kidal ce matin. Après la cérémonie protocolaire, il commence par une visite de courtoisie à l'âme locale de Kidal, le nommé député Mohamed Ag Intala, avant d'animer la conférence des cadres élargie aux organisations de la société civile et aux communautés de la base constituées de jeunes et de femmes. Au siège de l'autorité intérimaire où s'est tenue la conférence des cadres, 5 interventions ont marqué la rencontre. Les préoccupations de Kidal, qui se résument globalement à l'accès aux services sociaux de base, notamment la santé, l'éducation et les infrastructures. Sans oublier la cohésion sociale, dans sa réponse, Soumeilou Boubé Maïga s'est réjoui d'abord de la qualité de l'accueil qui lui a été réservé avant de préciser que sa visite dans la capitale de l'Adra des Isfogas s'inscrit dans le cadre du renforcement de l'unité nationale, de l'indivisibilité du pays, de la cohésion sociale et du vivre ensemble entre toutes les filles et fils du Mali. Le Premier ministre malien s'est dit déterminé dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Bamako, Kassine Traoré, VOA Afrique.
La République démocratique du Congo refuse de participer à la conférence des donateurs en avril à Genève, qui a pour objectif de réunir 1,7 milliard de dollars pour faire face aux crises humanitaires dans ce pays. José Makila, le Premier ministre par intérim, a déclaré à la presse que le niveau de la crise humanitaire n'est pas aussi excessif dans le pays qu'on le prétend. Au Togo, les négociations entre le parti au pouvoir et l'opposition ont repris à Lomé en présence du président ghanéen Nana Akufo-Addo, facilitateur du dialogue après un mois d'interruption. Des négociations qui tentent de mettre fin à plus de 6 mois de grave crise politique et sociale. Les pourparlers s'enlisent sur la question du retour à la constitution de 1992 qui implique une limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels. Le président nigérian Muhammadu Buhari a reçu les écolières de Dapchi libérées par le groupe Boko Haram. Nous avons négocié avec les ravisseurs uniquement pour être certains qu'aucune de ces filles ne serait mise en danger. Cette stratégie a été payante car toutes les filles ont été relâchées sans incident, a déclaré le président Buhari. Au Cameroun, un fonctionnaire a été tué, un préfet blessé dans une attaque dans la région du sud-ouest anglophone. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
D'après une ONG de défense des droits de l'homme basée dans la région anglophone, le représentant du ministère en charge des questions financières du Lébialem a été tué dans une attaque qui a visé un convoi administratif. Zachary Ngito, préfet de la localité, a été blessé. Le préfet et son équipe se rendaient dans un village pour constater l'incendie de la maison d'un ministre lorsqu'ils ont été pris pour cible par des séparatistes présumés. Des élections sénatoriales doivent se tenir dimanche dans le pays. Par crainte de troubles, la circulation a été partiellement interdite à certains véhicules dans divers secteurs du sud-ouest. Mardi, un Tunisien a été tué dans cette région lors d'une opération de l'armée visant à libérer 4 otages, 2 Tunisiens et 2 Camerounais. Samedi, un haut fonctionnaire de l'administration a été enlevé avant d'être libéré lundi. Les séparatistes anglophones ont demandé aux représentants de Yaoundé et aux forces de défense et de sécurité de quitter la région, les qualifiant de forces d'occupation.
Et toujours au Cameroun, l'ancien ministre de l'eau et de l'énergie, Basile Atanganakuna, sur lequel pèsent des soupçons de malversation financière, a été arrêté au Nigeria jeudi, alors qu'il tentait de s'enfuir. Une autre personnalité, Dieudonné Oyono, l'ancien recteur de l'université de Douala, a été écroué jeudi soir. Des sources évoquent des détournements présumés de fonds publics, sans que l'on sache ce qui lui est reproché concrètement. En Zambie, le principal parti d'opposition défie le président Edgar Lungu. Il a déposé devant le Parlement une motion de destitution du président qu'elle accuse depuis des mois de dérive autoritaire. La motion présentée par le Parti Uni pour le Développement National sera discutée par les députés le 28 mars. L'UNPD reproche au chef de l'État plusieurs violations de la Constitution, notamment en encourageant la corruption dans les services de l'État et en gaspillant l'argent public lors de ses visites à l'étranger. Aux Comores, le gouvernement a annoncé un renforcement des mesures de sécurité sur l'île d'Anjouan, principal point de départ des immigrants clandestins vers l'île française de Mayotte, notamment pour traquer les passeurs. Les autorités de Mayotte ont multiplié ces derniers jours les expulsions de Comoriens sans papier. Moroni a riposté en refusant d'accueillir sur son sol ses citoyens refoulés.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump a finalement ratifié la loi de finances adoptée dans la nuit par le Congrès, quelques heures après avoir menacé d'y mettre son veto. Le point avec Idriss Fall.
Donald Trump vient de signer la loi de finances qui va éviter la fermeture du gouvernement ce soir à minuit. Il a déclaré, je cite, « J'ai signé, mais je ne suis pas content pour beaucoup de choses qu'il y a dans cette loi. Je ne signerai jamais plus une pareille loi de finances. » Il n'y a pas de règlement de la question des DACA, ces jeunes entrés illégalement aux États-Unis et qui avaient été protégés par un programme de Barack Obama que M. Trump a supprimé. Il a aussi dénoncé le fait que la protection de notre frontière, y compris la construction d'un mur, n'a pas été financée. Et ce qu'il y a de nouveau, c'est le financement de la défense. Il a invité James Mattis, le patron du Pentagone, qui a parlé du plus gros budget jamais reçu pour la défense des États-Unis. Au total, un compromis a été trouvé donc entre républicains et démocrates pour près de 1 300 milliards de dollars. Et ce projet de loi doit financer le gouvernement fédéral jusqu'à la fin de l'année budgétaire, le 30 septembre prochain. Donc la fermeture partielle du gouvernement ce soir n'est pas au rendez-vous.
Plusieurs ministres israéliens ont salué la nomination de John Bolton au poste de conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche. Le président Trump continue de nommer de véritables amis d'Israël aux postes les plus haut placés. John Bolton fait partie des plus éminents d'entre eux, a indiqué la ministre de la Justice, Ayelet Shaked, dans un communiqué. Le directeur de l'Organisation mondiale du commerce a averti les États que l'imposition de nouvelles barrières douanières mettait en péril l'économie mondiale, alors que Pékin et Washington poursuivent leur bras de fer commercial. Je lance un nouvel appel à la retenue et à un dialogue urgent comme étant la meilleure voie à suivre pour résoudre ces problèmes, a-t-il ajouté. Une guerre commerciale amplifiée cette semaine, alors que Washington envisage de taxer certaines importations chinoises à hauteur de 60 milliards de dollars. Tandis que Pékin a répliqué en menaçant le porc et les fruits américains. Le sud de la France, théâtre de 3 attentats ce vendredi. Au moins 3 personnes sont mortes et plusieurs ont été blessées. Des attaques revendiquées par le groupe djihadiste État islamique. L'assaillant a agi seul avant d'être abattu par les forces de l'ordre. Morgane Guériec.
L'auteur des attaques perpétrées à Carcassonne et Trèbes a été identifié comme étant Redouane Lagdim, 26 ans, connu pour des faits de petite délinquance. D'après le ministre français de l'Intérieur, l'assaillant a été abattu lors d'un assaut mené par les forces de l'ordre dans un supermarché de Trèbes, où il était retranché avec un gendarme qui s'était volontairement substitué à un otage. Ce gendarme a été grièvement blessé par balle, ainsi qu'un autre militaire lors de l'assaut, ont précisé les autorités françaises. Le suspect avait volé une voiture à Carcassonne, tuant un passager et blessant grièvement le conducteur. Il a ensuite blessé un policier par balle. Ce dernier rentrait d'un footing avec plusieurs collègues, puis l'assaillant s'est rendu dans un supermarché de Trèbes où il a tué deux autres personnes.
Et l'Égypte a ouvert sa frontière avec la bande de Gaza pour 2 jours. C'est la 3e fois cette année que l'Égypte ouvre sa frontière avec cette enclave palestinienne restée largement fermée ces dernières années en raison des inquiétudes sécuritaires du Caire. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La compagnie ivoirienne d'électricité vient de lancer l'inspection par des drones pour améliorer la surveillance de son réseau et réduire ses coûts. Elle veut aussi former une 20aine de pilotes locaux pour inspecter ses 25 000 km de lignes à haute tension. L'accès aux pylônes électriques est souvent difficile dans le pays. Le drone permettra d'analyser un peu de temps un grand nombre de lignes, assurer leur sécurité de manière beaucoup plus fine et d'optimiser les coûts. Les autorités projettent d'investir encore 16 milliards d'euros dans le secteur d'ici 2030. Le Togo met en place une réglementation des transactions et services électroniques. L'OME vise à accélérer les échanges de documents et d'informations entre les administrations publiques. Sur le commerce en ligne, la dématérialisation de procédures de création d'entreprises produira beaucoup d'impact sur la formalisation des entreprises. Le président américain Donald Trump a autorisé la suspension des taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium de plusieurs des partenaires importants des États-Unis. Mais cette exemption est temporaire, allant jusqu'au 1er mai. L'Union européenne veut tout simplement la suppression de cette mesure. En représailles, Bruxelles a préparé une liste de produits américains qui pourraient à leur tour être visés par des taxes européennes. La Chine a répliqué en dévoilant une liste de 128 produits à taxer de 15% à 25% en cas d'échec des négociations avec Washington.
Et une musique qui annonce le sport. Bonsoir Nicolas Pinot.
Bonsoir Aïssa, bonsoir à tous.
Série de matchs amicaux sur la planète football.
Le Mali a fait match nul un but partout à Liège face au Japon, qualifié pour la Coupe du Monde 2018 et futur adversaire du Sénégal, Diaby, buteur sur pénalty pour les Maliens. Le Sénégal, justement, qui affronte ce vendredi à Casablanca, au stade Mohamed V, l'Ouzbékistan en amical. Autre rencontre à suivre, Gambie-Centrafrique, Pologne-Nigeria et puis l'Uruguay qui a battu la République tchèque 2-0 dans le sud de la Chine. Les buteurs pour la Céleste, Luis Suarez sur penalty et Edinson Cavani. La finale de la China Cup qui opposera lundi l'Uruguay au Pays de Galles qui a battu la Chine.
Et c'est officiel, Zlatan Ibrahimovic rejoint la MLS.
Le Los Angeles Galaxy a confirmé avoir recruté Zlatan Ibrahimovic, buteur et personnalité hors norme du football mondial. Il va relever à 36 ans et après une grave blessure à un genou, son ultime défi. L'attaquant suédois qui a joué à l'Ajax d'Amsterdam, la Juventus Turin, le FC Barcelone ou encore le Paris Saint-Germain s'est engagé jusqu'en 2019 avec le club de Los Angeles pour un salaire annuel de 1,5 million de dollars. C'est le maximum autorisé dans le championnat nord-américain.
Le président de la Confédération africaine de football sur VOA Afrique.
Un an après son élection face à Issa tout le malgache Armad sera notre invité exceptionnel lundi dans Sporama. L'occasion pour le président de la CAF de revenir sur la première année de son mandat à la tête de l'instance du football africain où beaucoup de chantiers ont été ouverts. On écoute Armat.
C'est une grande institution, la CAF. Il y a une nouvelle dynamisme. Tout le monde s'implique maintenant dans la gestion de la Confédération. Mon impression, c'est que vraiment la tâche est immense. Il y a tout à refaire à la CAF, même la gestion du personnel, l'administration. Tout doit être aujourd'hui au diapason d'une gestion réelle, transparente et qui respecte la bonne gouvernance.
Le président de la CAF, Armat, une interview à retrouver sur notre site voaafrique.com.
Et la NBA, le championnat de basket nord-américain.
La superstar de Houston, James Harden, était dans un mauvais jour jusqu'à son réveil en prolongation où il a fait capituler Détroit, victoire 100-96. Charlotte a infligé à Memphis l'une des plus lourdes défaites de l'histoire de la NBA, 140-79. À l'ouest, Utah s'est imposé à Dallas, 119-112.
Merci Nicolas Pineau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez toujours Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le Premier ministre malien est en visite officielle à l'intérieur du pays. Après Tessalit, Soumalou Boubé Maïga était ce matin à Kidal avant de se rendre à Gao. Pour analyse, Ekia Badou a joint à Bamako Shahana Takiou, éditorialiste au journal du 22 septembre.
Selon les informations recueillies et les images que nous avons réceptionnées, le Premier ministre du Mali, Soumalou Boubé Maïga, a été accueilli avec ferveur à Kidal. Les populations sont sorties pour lui réserver un accueil chaleureux. Je pense que c'était une visite demandée par les représentants de Kidal eux-mêmes. Le Premier ministre a répondu à cette demande-là que les populations de Kidal sont vraiment contentes.
Comment expliquer que les populations puissent être contentes quand on sait que son prédécesseur n'a pas eu le même accueil en 2014 ?
Le contexte politique a changé, le contexte sécuritaire de même. Et la personnalité de Boubé est différente de celle de Moussa Mara, son prédécesseur. Soumalou a minutieusement préparé cette rencontre. Il a des relations personnelles avec les leaders de la région de Kidal. Il y a le contexte politique qui a changé parce que nous devons aller aux élections en juillet prochain. La communauté internationale et tout le monde est d'accord pour que les élections se tiennent au délai constitutionnel. Et le Mali ne peut pas faire une élection sans Kidal, donc Kidal doit accepter la présence du Mali dans cette partie qui est en réalité du Mali. Le contexte sécuritaire également a changé. Elle a changé parce que depuis un certain temps, Barkhane est en train de traquer les terroristes dans leur dernier retranchement. La force conjointe du G5 Sahel est également montée en puissance et en train de traquer les terroristes. L'armée malienne est également en train de quadriller un peu certaines zones de terroristes. Donc vraiment, le contexte sécuritaire politique ont changé, ce qui a facilité, de mon point de vue, la visite de l'actuel Premier ministre Soumalou Boubé Maïga.
La prochaine étape, c'est Gao. Est-ce que vous pensez que ce Premier ministre va être capable également de rassurer tout le monde quand on sait les tensions qu'il y a à Gao?
Absolument. Gao, c'est sa ville natale. Il connaît les différents leaders de Gao, à travers le ministre de la Réconciliation nationale, à travers la société civile. La tension a beaucoup baissé à Gao. Donc le travail a été facilité pour le Premier ministre en amont. Il va pour rassurer, il va pour restaurer la confiance entre les différentes communautés et vraiment plaider pour la paix, pour la tenue des scrutins paisibles dans la plus grande transparence.
C'était Shahana Takiou, éditorialiste au journal du 22 septembre.
Restez branchés 24 heures sur 24 sur VOA Afrique à Gao, au Mali, sur 92.9 FM.
Élection sénatoriale en Côte d'Ivoire demain. 66 candidats de la coalition au pouvoir et 48 candidats indépendants se disputeront les 99 sièges. L'opposition, qui exige la réforme de la commission électorale, a boycotté ce scrutin ainsi que les élections locales à venir. Pour une analyse, Nathalie Barge a joint le président de l'Observatoire du Code de bonne conduite des partis et des groupements politiques, Pierre Kwame Adjoumi.
L'élection nationale pour l'opposition devrait se faire après les élections des conseillers municipaux et des conseillers régionaux. Parce que les conseillers municipaux et les conseillers régionaux qui vont être les grands électeurs de ce scrutin, les mandats arrivent à terme. Et donc, pour avoir l'inclusivité il aurait fallu que l'opposition participe pour les prochaines élections au niveau du conseil régional et du conseil municipal. Et cela donnerait, bien entendu, une exclusivité de toute la classe politique. Parce que les élections passées ont été boycottées par l'opposition. Donc, ils n'ont carrément pas de grands électeurs, puisqu'ils ne sont pas du tout allés aux élections passées.
Donc, vers quel type de résultats s'achemine-t-on à partir de maintenant ?
Il y a des indépendants qui sont en lice. Mais toujours est-il que le Sénat n'aura pas une opposition. Mais ce que nous devrons voir tous à l'esprit, c'est qu'il faut tout faire pour qu'on arrive à réformer la commission électorale indépendante en conformité avec, bien entendu, la nouvelle loi constitutionnelle en Côte d'Ivoire. Et si cela est fait, nous pensons que les prochaines élections, l'opposition va participer.
Et cela étant un nouveau Sénat, est-ce que ce n'est pas un renforcement du Parlement, selon vous ?
Oui, mais c'est ce que nous disons. Dans le schéma actuel que nous avons, ça sera un Sénat monocolore. Et donc, il n'y aura pas de débat. Voilà un peu pourquoi beaucoup de nos compatriotes disent que ça ne sert à rien de créer ce Sénat.
Est-ce que, selon vous, cela va creuser encore l'écart entre l'opposition et le parti au pouvoir, ou est-ce qu'il va y avoir, à un moment donné, un moyen de s'entendre ?
Nous, notre rôle, c'est de garantir une cohésion sociale entre les partis politiques. Et nous avons souhaité, et ce que nous souhaitons d'ailleurs, et nous sommes en train de travailler dans ce sens-là, qu'il y ait un dialogue entre l'opposition et la classe au pouvoir, et qui devrait être arbitré par les organisations de la société civile. Parce que je dois vous dire ici, lorsque ces deux entités se retrouvent et ils sortent de ce conclave, on nous dit oui, que nous sommes entendus, nous sommes compris. Et deux, trois jours, chacun dit c'est parce que nous avons dit. Donc nous avons déjà rencontré certains acteurs des deux camps pour demander à ce qu'il y ait un dialogue inclusif. Sans le dialogue, il y aura toujours un écart entre eux. Donc nous sommes en train de travailler, œuvrer pour qu'il y ait ce dialogue afin de permettre que les murs de méfiance disparaissent pour qu'on puisse vraiment aller dans les élections futures. Parce que 2020 approche, donc il faut résoudre tous ces problèmes-là et pour les résoudre. Et nous avons des oreilles attentives au niveau du parti au pouvoir et au niveau aussi de la classe d'opposition. Nous avons aussi une oreille attentive. Nous allons continuer aussi notre plaidoyer pour pouvoir parler d'une même voix sur les questions d'intérêt national.
Pierre Kwame Adjoumi, de l'Observatoire du Code de bonne conduite des partis et groupements politiques.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, VOA Afrique, 24h sur 24.
Et petit détour par les États-Unis. L'ancien ambassadeur des États-Unis à l'ONU, John Bolton, deviendra le nouveau conseiller à la sécurité nationale du président américain. Donald Trump a annoncé son entrée en fonction à compter du 9 avril prochain. Cette nomination intervient à l'approche des négociations historiques avec la Corée du Nord et d'une échéance cruciale sur l'avenir de l'accord concernant le nucléaire iranien. Alors, qui est donc John Bolton? Eric Manira Akiza a joint à Washington l'ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique, Herman Cohen.
John Bolton est un ancien fonctionnaire du département d'État. Je l'ai connu quand j'ai été sous-secrétaire d'État pour les affaires africaines. Il était sous-secrétaire pour les affaires multilatérales. Et après, il est devenu ambassadeur des États-Unis auprès des Nations Unies.
Et c'est quel genre de personnalité, John Bolton?
Il avait des points de vue assez extrémistes. Il était contre l'ONU. Il a voulu refuser de donner des fonds à l'ONU. Il était très anti-communiste. Et récemment, il a dit qu'il faut faire la guerre contre l'Iran, pour changer le régime. Aussi, dans les journaux, il a fait des articles où il a dit qu'il faut faire la guerre contre la Corée du Nord. Donc, c'est un homme avec des idées très extrêmes.
Son choix a été surprenant.
Surtout qu'il n'est pas d'accord avec le président lui-même. Par exemple, pendant la campagne, le président Trump a dénoncé la guerre en Irak. Il a dit que c'était une erreur de la part du président Bush, 43, très mauvais, ça a tué beaucoup de monde, beaucoup de soldats américains. Mais même aujourd'hui, M. Bolton dit que c'était une bonne guerre, la guerre contre l'Irak. Il ne veut pas discuter avec Corée du Nord et président Trump a déjà accepté d'avoir une conversation avec Kim Jong-un, le président de Corée du Nord. Donc, ce sera intéressant de voir s'ils vont s'entendre sur les politiques.
Et selon vous, quel est le message que le président envoie à ses partenaires ou aux Américains?
Il sera très dur dans toutes les affaires domestiques et extérieures. Et il y a des gens qui disent qu'il a fait la sélection de M. Bolton de faire une distraction, de changer la conversation. parce qu'il y a des problèmes sur ce que les Russes ont fait pendant la campagne. Il y a une enquête contre la campagne de Trump et il paraît que ça avance. Donc il est très agité en ce moment.
Et quels sont les risques ou les avantages en nommant Bolton?
Je crois que le plus grand risque, c'est l'affaire d'Iran. Le président lui-même n'aime pas cet accord que le président Obama a fait. Il n'aime pas ça. Il menace de quitter cet accord contre l'avis des Européens. Et Bolton aussi veut quitter cet accord. Donc je crois que la grande menace, c'est une possibilité d'avoir une guerre contre l'Iran, que ce sera une catastrophe. Je ne vois rien de bien dans cette sélection de M. Bolton. Je ne vois pas de bonnes choses.
C'était Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Une journée ville sans voiture en République démocratique du Congo. C'est une journée décrétée par le bureau de coordination de la société civile du Sud Kivu, qui a été moins observée à Bukavu ce vendredi. Le transport en commun a été fluide, surtout l'après-midi, mais plusieurs particuliers ont choisi de laisser leur véhicule au parking pour soutenir cette action citoyenne. Ernest Mouhero sur place pour VOA Afrique.
Bukavu s'est réveillé avec une faible circulation des véhicules, mais dès 10h du matin, les grandes artères étaient occupées comme d'habitude par le véhicule. Motards et chauffeurs font face à des routes en mauvais état. Mizo Kabari, président de la Ligue des consommateurs des services du Congo Kinshasa, Likoski, interpelle.
Personne ne peut s'imaginer l'état dans lequel se trouvent nos routes. Où il y a des trous impossibles, à tel point que les chauffeurs, là où ils pouvaient faire 5 minutes, il va faire 30 ou une heure de temps. Nous voudrions qu'on améliore les choses.
La veille, les associations des transporteurs et taximen se sont désolidarisées de l'action de la société civile après avoir eu des échanges avec le gouverneur des provinces du Sud Kivu et ses services qui leur ont annoncé la reprise des travaux de construction et réhabilitation de certains tronçons routiers pour bientôt. Certains particuliers ont choisi, eux, de répondre à l'appel de la société civile en laissant leur véhicule au parking. Patient Bachombe, président du bureau de coordination de la société civile, estime que c'est déjà un bon début.
Beaucoup plus les particuliers ont compris notre message. Ceux du transport en commun ont travaillé, c'est vrai, mais nous pensons que nous allons continuer à sensibiliser les transporteurs pour qu'ils comprennent les bien fondés. Mais déjà, c'est que l'autorité commence à s'exprimer par rapport à la question des routes. Tel était notre objectif, que l'autorité priorise la question des routes.
Selon l'Office des voiries et drainages OVD, en 2017, seulement 977 mètres linéaires de routes ont été réhabilités à Bukavu. Le directeur provincial de l'OVD, Alain Timbalanga, appelle la population à tenir compte du fait que les Sud Kivu ne mobilisent pas assez de moyens par rapport à ses besoins en réhabilitation des routes.
2017, on n'a pas fait grand-chose à part la route Fizi et Mimosa. Il y a un état de besoin qui a été fait pour l'année passée, pour un renforcement systématique des routes qui ont été réhabilitées à la hauteur de 2 570 000 dollars. Donc c'est un problème un peu complexe. Nous devons quand même réfléchir convenablement qu'est-ce que nous produisons pour qu'on entretienne nos routes.
La Ligue des consommateurs des services du Congo Kinshasa, Likoski, plaide pour la réhabilitation des routes des dessertes agricoles mises au cabaret.
Beaucoup de compatriotes qui sont encouragés et qui voudraient faire l'agriculture la priorité des priorités, mais ils sont découragés. Parce que lorsqu'ils produisent, quel est le marché d'écoulement de leurs produits? Il n'y a pas de route.
Des usagers de la route attendent donc avec impatience le début des travaux annoncés par le gouvernement provincial. De Bukavu, Ernest Mouhero, VOA Afrique.
Salut les amis, c'est Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, Island Music, la bonne musique de Caraïbes. Soca, Zouk, Reggae, Salsa. Suivez-nous aussi en direct sur Facebook Live. VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RMShow. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel. Sur VOA Afrique, Peace Africa.
Et ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Since Lumami à la mise en onde, Sidrak Franklin à la console, Raissa Girondin à la présentation. On reste connectés sur Facebook et sur notre site internet voafrique.com. Excellente suite de programme.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM, Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou, Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.